Dites-donc, vous qui connaissez la télévision, là, qu'est-ce qu'on voit là-dedans?
Là-dedans? On fait des tas de choses. Tenez, tous les soirs, le journal télévisé.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Le journal télévisé est probablement une des plus belles réussites de la télévision française.
Ce n'est pas de la conserve, c'est du direct.
Rien, absolument rien ne compte. En dehors de cette information, nous ne pouvons plus nous en séparer.
Un policier tué cette nuit, les syndicats demandent soutien et fermeté. Les résultats du tiercé, le 4, le 1 et le 2, le rapport à la fin de ce journal. Madame, monsieur, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous, bienvenue dans le 20h de France 2. C'est la fin de ce 12-13, très bel après-midi et à demain.
Le 29 juin 1949, soit jour pour jour, il y a 70 ans, était diffusé sur la radio-télévision française le premier journal télévisé. Longtemps surnommé la grand-messe de l'information, longtemps incarné par des voix devenues célèbres comme Patrick Poivre d'Arvor, Christine Ockrent qu'on vient d'entendre, Claire Chazal, Rachida Arabe, Marie-Laure Augry, Yves Mourouzi, Bruno Mazur, David Pujadas, et puis aujourd'hui Jean-Pierre Pernaut, Anne-Sophie Lapix, Gilles Boulot ou encore Laurent Delahousse. Le JT est régulièrement donné pour mort malgré ses quelques 27 millions de téléspectateurs quotidiens, toutes chaînes confondues. Alors pourquoi serait-il obsolète, une relique du XXe siècle ou un format à adapter au XXIe? Et dans quel sens? Pour qui, à l'heure des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux? En d'autres termes, le JT à 70 ans, vive le JT, point d'interrogation. Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos deux invités ce matin. Christine Ockrent, bien sûr. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui productrice à France Culture, Affaires étrangères, bien sûr, le samedi à 11h, c'est-à-dire dans quelques heures maintenant. Vous avez été la première femme à présenter le journal de 20h sur Antenne 2 de 1981 à 1985, puis de 1988 à 1992. Et en face de vous se trouve Hervé Brusigny. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, Prix Albert Londres. Vous avez été rédacteur en chef du 20h de 95 à 97 sur ce qui était déjà France 2 ou c'était encore Antenne 2 ?
France 2.
C'était déjà France 2, puis de 2008 à 2010. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de la stratégie et de l'innovation à la direction de l'information de France Télévisions. Et on vous doit la coécriture d'un documentaire qui a été diffusé le 13 juin dernier. Il était une fois le journal télévisé, qu'on peut bien sûr voir encore en replay sur francetélé.fr. On va commencer avec vous, Hervé Brusigny, juste par les origines. Quelques mots sur la naissance de ce JT le 29 juin 1949, c'est la date de diffusion, mais il a été longuement préparé, longuement mûri. Et vous dites que c'est la rencontre de trois personnages et de trois passions ou visions. La passion d'un journaliste qui était Pierre Sabag, l'engagement d'un prêtre qui était le père Pichard et la vision d'un homme politique qui était François Mitterrand. C'est bien ça?
Oui, c'est une histoire qui est quand même assez rocambolesque. En fait, personne n'y croit, sauf ces trois-là. Sabag, parce que en fait, c'est un homme de radio, ça devrait vous plaire. Trois ans avant, il a fait un grand reportage en ballon avec un poste émetteur. Et il se dit, oh, si j'avais une caméra, ce serait quand même formidable. Et en fait, oui, trois ans plus tard, le 29 juin 49, il refait le coup du ballon. Et puis, il y a aussi un autre qui, lui, porte la soutane. C'est un père dominicain, Raymond Pichard. Il a été voir une expo, il a vu la télé et il fait déjà une émission à la radio qui s'appelle Le jour du Seigneur. Et donc, il se dit, si c'était à la télé, ça serait génial. Et il arrive à convaincre le pape qu'il y a toute une histoire stupéfiante. Et donc, lui aussi va promouvoir la télévision. Et l'autre, le dernier, c'est François Mitterrand qui, lui, poursuit un objectif politico-industriel.
Qui s'occupe de l'information à ce moment-là.
Oui, il est secrétaire d'État à l'info. Il nomme comme ça en sous-main des tas de gens. Il décide du papier qu'on attribue ou pas à la presse écrite. Et il va décidé qu'on va doter la France d'une haute définition qui est le 819 lignes, c'est-à-dire c'est ce qui décrivait le standard de la bonne image.
Qu'est-ce qu'on a vu le 29 juin 1949 à 21h alors ?
On a vu 5 sujets. Un premier sujet qui s'appelait la Kermesse aux étoiles, où il y avait les grandes vedettes de l'époque de cinéma. Même Marlène Dietrich qui était là pour une sorte de fête de tombola gentille. Et puis, on voit des tas d'autres sujets qui, eux, sont empruntés au circuit d'actualité cinématographique, parce que c'est comme ça qu'on s'informait. On allait au cinéma, mais c'était que toutes les semaines. Et là, tous les jours, Sabag arrive à se procurer des rogatons de l'actualité cinématographique. Et puis, cette histoire de ballon absolument incroyable. Donc, il décolle des Invalides, il passe un peu au-dessus de Paris, un méchant vent les rabat sur terre, le ballon explose, ligne à haute tension, fin de la circulation des avions à Orly. Un truc, mais stupéfiant, quoi.
Mais avec Rossini, ça n'a pas fait autant de bruit que, d'ailleurs, ça aurait pu le faire, tout simplement, peut-être parce que, à cette époque encore, seulement 3000 personnes avaient un téléviseur.
Oui.
Mais dans la presse écrite, le lendemain, finalement, pas grand-chose.
Hein, non, il y a quelques lignes, mais il y a un mec astucieux dans le journal Le Monde qui dit, les actualités cinématographiques ont du mouron à se faire, et peut-être même la presse dans son ensemble doit réfléchir à ce qui vient d'arriver. Ça tient en 5 lignes, c'est quand même assez bien.
Et c'est des questions qu'on retrouve, et bien évidemment, aujourd'hui encore, oui, à propos d'autres, Internet, réseaux sociaux, et on en parlera tout à l'heure. Alors Christine Lecrainte, on avance un peu dans le temps quand même. Vous êtes arrivée en 1981.
Oui, je n'étais pas là au début du journal.
Vous y êtes arrivée dans votre prime jeunesse. Est-ce que c'était l'âge
non,
de la...
Non, pas du tout dans ma prime jeunesse. Moi, j'avais fait beaucoup... Moi, j'avais fait mes classes dans le reportage, j'avais fait mes classes aux États-Unis, et ça a été très important pour moi dans la manière dont j'ai vécu cette irruption dans un exercice pour lequel je n'étais absolument pas préparée, auquel je n'avais pas rêvé, contrairement à beaucoup de journalistes en France. Et puis j'étais, oui, la première femme à m'y installer longuement. Et tout cela dans un contexte quand même où il venait d'y avoir l'élection de Mitterrand, et surtout, à mon avis, le retour de Pierre Desgroupes à la tête de ce qu'on appelait à l'époque Antenne 2.
Et Desgroupes, pour les plus jeunes d'entre nous,
Desgroupes, c'était l'homme de 5 colonnes à la une, c'était celui qui, sous Chaban Delmas, dans un premier temps de relative respiration de l'information en France, avait tenté de distendre un tout petit peu le contrôle politique sur ce qu'on appelait l'ORTF, et donc c'était le retour de Desgroupes. Moi, je venais d'un autre monde, ce qui à la fois m'a beaucoup aidé parce que je n'étais pas encombrée par toutes sortes de timidités ou de freins. Et par ailleurs, ça m'a aussi gênée parce que j'avais culturellement d'autres habitudes, que ce soit dans la manière d'interviewer ou dans la manière de concevoir le rythme d'un journal.
Le JT avait quand même sa maturité au moment où vous arrivez en 1981. Il était déjà installé. Là, on en parlait quand même déjà beaucoup par rapport à ce que c'était tout à l'heure, nous le disait Hervé Brusini. Donc, vous arrivez dans un contexte aussi particulier pour ce qu'est l'exercice même du journal télévisé. Christine
Ockrent. Et dans un contexte où la société française sort quand même d'une forme d'immobilisme, mais tout à coup le fait de voir une femme qui dit des choses graves sans se croire obligée de sourire, alors qu'il y avait une contrainte forte qui demeure jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'une femme, surtout à l'image, se doit d'être aimable. Une femme qui ne sourit pas est une femme sévère et donc une femme autoritaire. Alors que, évidemment, d'un homme, on dira il a de l'autorité, c'est un homme sérieux. Enfin bref, nous connaissons toutes, nous autres journalistes femmes, la déclinaison des adjectifs qui, mis au féminin, ont souvent une autre sonorité. Mais je crois que plus sérieusement, c'est aussi un moment où la technologie n'avait pas encore pris complètement le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, c'est le cas. Je ne sais pas si Hervé en est d'accord, mais aujourd'hui, on a une image qui surgit avant d'apprendre un fait. Et donc, vous voyez aujourd'hui que ce soit les chaînes d'information continue ou les chaînes traditionnelles, avec cet exercice traditionnel dont le rôle social a quand même beaucoup changé, parce que le grand rendez-vous du 20h réunit beaucoup moins de monde aujourd'hui, par la force des choses.
Ah, c'était la grand-messe, ça n'allait plus vraiment.
C'est-à-dire qu'il y avait que 3 chaînes, et les habitudes des gens n'étaient pas celles-là, et puis il n'y avait pas l'information continue, etc. Mais la grande différence, à mon sens, c'est que cela permettait d'avoir plus le temps de contextualiser l'information. Et ça, c'est évidemment le problème qu'accentue encore l'irruption des réseaux sociaux et donc les distorsions auxquelles on assiste aujourd'hui, avec tous les dangers dans lesquels nos démocraties sont véritablement précipitées la tête la première. À cette époque-là, me semble-t-il, Hervé, disons des années 80 jusqu'aux années 2000, on n'était pas encore dans cette fuite en avant technologique.
Hervé Brusigny, la concurrence était peut-être tout simplement le privé encore à cette époque-là, c'était pas encore la concurrence technologique.
Non mais évidemment, le paysage médiatique n'avait rien à voir et nous étions avec en ligne de mire TF1 qu'on a d'ailleurs battu.
À plate couture.
Et puis, il y avait quelque chose quand même d'extraordinairement moderne dans le journal de Christine, excusez du peu, il y avait une mise en image, une mise en page du journal. C'est-à-dire que le journal était lisible. Je me souviens que ça avait été
Il faut
fait...
dire quand même, pardon de vous interrompre, oui. Il faut préciser quand même que Christine Ockrent, vous avez été aussi rédactrice en chef de votre journal, ce qui n'était pas courant.
Ce qui n'était pas l'usage. Hein.
Ah, c'était même une grande nouveauté qu'avaient voulu des groupes et qui voulaient que donc la présentatrice pour le... C'était une double audace, une femme rédactrice en chef. Et voilà que cette femme rédactrice en chef a aussi des idées, excusez du peu, comme je le disais. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y avait une association avec l'équipe d'Actuel où il y avait cette mise en image qui s'appelait l'invité du jour, l'image du jour. Et
oui,
tout ça a changé beaucoup les choses.
Tout bêtement copié des journaux télévisés américains que j'avais beaucoup regardé et beaucoup fréquenté puisque j'avais longtemps travaillé, moi, pour 60 Minutes, qui est le magazine de CBS News. Oui, un effort de mise en page. Mais tout cela, encore une fois, dans un moment où... On sortait d'un certain nombre d'habitudes, les plus graves à mon avis étant les habitudes, disons-le, politiques.
Alors, puisque vous avez juste évoqué à l'instant, Christine Ockrent, ce temps qui est un temps de concurrence technologique et qui est notre temps aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on avance à nouveau à grands pas dans le temps pour arriver aux questions qui se posent aujourd'hui au journal télévisé et donc poser la question de son avenir, voire déjà de son présent. Est-ce que vous diriez, Hervé Brusigny, que le journal télévisé, comme tout le monde l'a dit depuis des années déjà, cela dit, il est mort ou il est dépassé. Ou est-ce qu'il faut trouver une forme nouvelle aujourd'hui dans ce monde concurrencé, comme l'a très bien dit Christine Ockrent, à la fois par les réseaux sociaux et par les chaînes Tout Info?
Ce que je dirais d'abord, c'est, entre guillemets, l'étrangeté de votre question au regard du parcours du journal. C'est-à-dire qu'il y a quelques années...
C'est plutôt la longévité, vous disiez.
Il y a quelques années, on aurait dit, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes soumis et tout. Et là, on dit, est-ce qu'il va se pérenniser? Est-ce qu'il va encore exister? Premier point. Deuxième point, les journalistes adorent dire, ça y est, c'est mort, c'est fini, on tourne la page. Et pourtant, on parle de quelque chose qui réunit encore quelques millions de téléspectateurs. J'aime à dire qu'en 1949, précisément, les commentaires de presse écrite ont été pour dire « c'est fini pour le cinéma, c'est fini pour la radio, maintenant l'actualité télévisée arrive, elle va tout balayer
enfin, ». C'est vrai que ça a été fini du coup au cinéma, les actualités
oui,
cinéma.
Oui, mais enfin,
ça
le cinéma a été résiduel par rapport aux sources d'information de l'époque qui étaient presse écrite et radio.
Et ça n'a pas tué la radio.
Voilà, et donc nous avons en fait des choses complémentaires. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, à la disparition brutale, n'est-ce pas, où on va pas suivre le corps du journal télévisé au Père Lachaise avant longtemps, parce que de toute façon, le journal a déjà muté. Le journal n'a été qu'une succession de transformations profondes. Quand Christine arrive, elle change le journal. Puis ensuite, le journal a encore changé. Elle a raison de dire qu'effectivement, l'image surgit avant la connaissance du fait. Car le langage moderne, c'est l'image. Aujourd'hui, tout le monde parle en image, la naissance du petit, la catastrophe, le divorce, tout ça s'exprime en image par une personne, des médias, c'est un océan d'images. Et donc, le journal télévisé, en fait, pour subsister, doit faire cette sélection et appréhender l'image comme elle est appréhendée dans les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous regardez un réseau social ou une plateforme d'infos, c'est 3 questions à 5 clés pour comprendre. Eh bien, ces formats ont été intégrés par le journal télévisé. De plus en plus, la rédaction en chef consiste à prendre ces différents formats, à se les approprier, à constituer comme ça l'identité l'identité profonde du journal qui fait que les gens vont regarder le vôtre plutôt que celui d'en face parce que il y a l'œil du 20h ou d'autres choses du même ordre.
C'est qui les gens en question, Hervé Brusini?
Ah ben les gens, alors les gens ils sont... Et là j'ai
qui
peur
qu'ils...
Bah, ils me ressemblent un petit peu, je ne parlerai pas de Christine, et ils me ressemblent à moi, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir un peu d'âge, ils sont...
Pour France 2, c'est autour de 60 ans la moyenne d'âge
oui,
qui regarde.
On peut le dire, absolument. Alors il y a 10 à 11% des téléspectateurs qui ont quand même moins de 35 ans. C'est pas si mal.
Vous le regardez aujourd'hui, Christine Ockrent, le journal télévisé de France 2?
Rarement, j'avoue. Quand il y a un gros événement, je zappe entre les deux journaux. Je n'ai d'ailleurs jamais compris.
C'est-à-dire entre TF1 et France 2?
Oui, je n'ai jamais compris, mais je n'ai jamais réussi à en convaincre le moindre responsable de télévision en France pourquoi les deux journaux sont face à face. En Grande-Bretagne, où ils ont une industrie de télévision extrêmement robuste et de grande qualité, il n'y a pas, je veux dire, ITN ne va pas mettre son journal en face de celui de BBC One, etc., etc. Mais en France, on dit, oh là là, mais les publicitaires seraient tellement déstabilisés. Toujours est-il que oui, il y a ces deux journaux face à face, ce qui est déjà assez absurde. Néanmoins, quand il y a un gros événement, oui, mais sinon, j'avoue que autant je regarde tard le soir telle ou telle chaîne d'info continue, où j'écoute beaucoup plus volontiers
le soir 3,
les radios.
Qui est manifestement menacé aujourd'hui, qui est tard le soir. Hein,
pour oui, mais je crois qu'encore une fois, les rythmes de vie, surtout là, nous ne sommes pas du tout, aucun de nous trois, des publics représentatifs, parce que nous nous baignons dans l'info du matin au soir, nous oui. sommes des drogués de l'info, nous adorons l'info, et donc on suit l'info. Donc je crois qu'on n'est pas du tout représentatif, mais je crois qu'il y a une évolution du mode de vie qui explique le vieillissement des téléspectateurs du 20h, ce qui est évidemment un défi d'ailleurs pour les responsables et pour les ressources publicitaires. Et par rapport à cela, il faut bien voir que la jeune génération en particulier, et c'est tout le défi de la radio, et en particulier un défi que France Culture a très bien relevé, parce que j'étais très surprise d'apprendre qu'il y a un rajeunissement de l'audience de France Culture. Pourquoi ? Parce que il y a une manière d'écouter, et d'écouter à sa guise et quand on veut, qui marque maintenant les habitudes d'écoute et aussi les habitudes des téléspectateurs. Et tout cela, encore une fois, c'est l'inverse de cette grand-messe, du grand rendez-vous, du 20h où tout le monde est assis, etc.
Avec force spectacle, cérémonial, tenue vestimentaire particulière, mise en scène, peut-être beaucoup plus à l'époque actuelle qu'à l'époque de Christine Ockrent, Hervé Brusini.
Je ne suis pas
beaucoup
sûr.
De personnalisation, de détariat.
Oui, bien, la personnalisation a été effectivement poussé comme étant un des axes majeurs de l'info, mais attendez, il y a aussi précisément le propos, c'est ce que je disais, il y a ce traitement de l'info, vous savez, c'est quand même repérable, des journaux qui aiment à appréhender un peu de complexité, qui aiment à faire des sujets qui font 6, 7 ou 8 minutes, je reviens sur l'œil du 20h, pardon, mais mener une enquête avec une forme très jeune, avec une jeune équipe qui n'hésite pas à manier l'impertinence de bon aloi, parce que c'est toujours très complexe l'impertinence à la télé, eh bien il y a là quelque chose. Moi j'aperçois des courants de renouveau forts. En fait, le journal doit relever maintenant un défi qui est celui du dialogue avec les téléspectateurs, celui de ce que le web appelle la conversation. Et donc, nous devons échanger. Le 20h ne peut pas être le discours en haut de la chaire dit aux fidèles. C'est maintenant quelque chose qui est à parité, qui se retrouve au même niveau que toute personne et qui doit produire une explication. Pourquoi j'ai appréhendé l'info comme ça ? Quelle erreur j'ai pu commettre. Il y a une demande de transparence, d'éthique, de déontologie puissante.
Ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à il y a 10 ou 20 ans, nécessairement, avec aussi cette nouvelle rubrique « Faux et usage de faux
oui, »
qui est une plongée dans, non seulement dans la fabrique de l'information, mais dans, effectivement, la fabrique de toutes les formes de complotisme qu'on voit surgir aujourd'hui. Ben, c'est la fin de cette fabrique médiatique, précisément.
C'est épouvantable.
il faut bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'y avoir participé, Christine Ockrent et Hervé Biosdini. Merci beaucoup.
Merci.